Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. Le tribunal de Bobigny se déclare incompétent pour juger un policier après une interpellation violente en 2015 à Drancy. Les juges ont estimé qu'il s'agissait d'un viol présumé et que cela relève des assises. En pleine affaire Théo, ce dossier prend une dimension particulière. Des juges d'application des peines d'Evry réclament plus de moyens. Pour se faire entendre, ils ont décidé de ne plus prendre de nouvelles demandes d'aménagement de peine, ce qui inquiète le personnel pénitentiaire de Fleury-Mérogis, la prison étant déjà surpeuplée. Reportage dans ce journal et nous parlerons plus généralement des maux de la justice avec notre invitée, l'avocate Laurence Roch. La famine est déclarée au Sud-Soudan, dans un pays ravagé par la guerre depuis 4 ans. La situation est critique, nous dira un membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Le dossier aurait pu passer inaperçu, mais il intervient dans un contexte particulier après l'affaire Théo. Le tribunal correctionnel de Bobigny, chargé de juger une affaire de violence policière, s'est déclaré aujourd'hui incompétent. Il estime que le policier concerné doit être jugé pour viol présumé et non pour violence et doit donc être traduit devant les assises. Les faits remontent à 2015 à Drancy. Alexandre est interpellé par des policiers municipaux. Les certificats médicaux font état d'une pénétration anale par une matraque télescopique, d'où la requalification des faits demandés par le tribunal. L'avocate d'Alexandre, Marie-Cécile Nathan.
Il a été soulagé de voir que, effectivement, la justice avait tout simplement reconnu et confirmé ce que lui a toujours déclaré depuis le début dans ce dossier. C'est une étape importante pour lui qu'il vient de franchir, que nous avons franchi, mais bien évidemment, ce n'est pas la fin de ce dossier. Ça va prendre encore du temps, plusieurs années très probablement, mais pour moi, c'est le sens normal des choses. On a un acte de pénétration, il faut donc donner la qualification juste et exacte qui est prévue par le code pénal, et c'est la qualification de viol.
Est-ce que vous avez le sentiment, on ne peut pas faire abstraction aujourd'hui de l'affaire Théo. Est-ce que vous avez le sentiment que cette décision a été rendue quand même dans un contexte particulier? Est-ce que ce contexte a pu jouer ou pas?
Non, je pense très sincèrement que le contexte de l'affaire Théo a mis uniquement en exergue le fait qu'il y avait un problème dans le traitement des violences policières. En revanche, sur la qualification même du dossier, c'est une analyse vraiment simple du dossier d'Alexandre qui a permis d'aboutir à cette conclusion-là. Et je ne crois pas que le tribunal et la justice prennent en tout cas en considération les éléments d'un autre dossier pour venir statuer. Ils ont tout simplement regardé le dossier d'Alexandre et ont décidé en l'occurrence avec les éléments du dossier d'Alexandre.
L'avocat du policier Florent Hautecorne annonce lui son intention de faire appel. Il estime qu'il n'y a pas eu viol parce qu'il n'y a pas eu intention.
L'intention de nuire, l'intention de commettre un préjudice, de commettre une infraction était totalement absent de ce dossier. Malheureusement, le préjudice subi par la partie civile résulte d'une interpellation puis d'un transport qui s'est très mal passé. Le dommage subi a été causé par des actes totalement involontaires et c'est toujours ce que j'ai soutenu dans cette affaire. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Pour qu'un viol soit caractérisé, il faut des éléments matériels, il faut également un élément intentionnel.
L'élément intentionnel, il faut selon vous qu'il soit associé à une intention sexuelle?
Il y a en tout cas des décisions qui ont été rendues et notamment par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui vont dans ce sens, oui. C'est un argument qui est tiré de décisions de justice qui ont été rendues et auxquelles il convient de se référer pour interpréter les faits au regard de la qualification juridique qu'il faut pouvoir leur attribuer ou pas.
Des propos recueillis par Florence Turme. La grève des juges d'application des peines du tribunal d'Evry dans l'Essonne depuis le 1er février. 9 JAP, comme on les appelle, mais aussi les greffiers, ont décidé de ne plus enregistrer les demandes d'aménagement de peine. Ils protestent ainsi contre le manque d'effectifs. Une action inédite qui inquiète les surveillants de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, un établissement déjà surpeuplé. Reportage sur place de David Ravier.
Devant les portes de Fleury-Mérogis, Arnaud Aram ne cache pas son inquiétude face à la décision des juges.
Tout de suite, je me suis dit, s'il n'y a plus d'aménagement de peine, ça veut dire plus de détenus et quelque part plus de tensions au niveau de la détention.
Pour ce surveillant pénitentiaire affilié à la CGT, ce mouvement initié par les juges n'est qu'une conséquence du sous-effectif général du système pénal.
Le ministère a déjà du mal à recruter des surveillants. J'imagine que le ministère a également du mal à recruter des greffiers. Le problème, il reste encore une fois humain. On peut effectivement se joindre à la revendication des juges qui demandent également des moyens humains afin qu'eux aussi puissent travailler dans de bonnes conditions et nous aussi, les surveillants, que nous puissions travailler dans de bonnes conditions.
La prison de Fleury-Mérogis est occupée à 152%. Parmi les détenus, plus de 80 sont obligés de dormir sur des matelas à même le sol chaque jour, faute de place disponible. Rien que pour le mois de janvier, le tribunal a dû examiner près de 250 demandes d'aménagement de peine. Pour Ambroise Koubi, lui aussi surveillant dans la maison d'arrêt, La revendication des juges de ne plus examiner les nouveaux dossiers pourrait aggraver la situation des prisons dans les mois à venir.
Qui dit surcharge au niveau de Fleury-Mérogis, diminution des aménagements de peine, dit que tout le système est grippé.
Pour l'instant, les surveillants attendent le mois de mars et les premiers blocages administratifs pour agir, mais ils n'excluent pas de se mettre en grève bien plus tôt si jamais la situation devenait critique.
Le tribunal d'Evry va mal et ce n'est pas le seul en France, c'est toute la justice qui est concernée. Bonsoir Laurence Roque.
Bonsoir.
Vous êtes avocate et membre du syndicat des avocats de France. Il y a un peu plus d'un an, vous lanciez le mouvement Justice en danger. Plus d'un an après, est-ce que les choses ont changé ?
Non, elles se sont même, à mon sens, aggravées. C'est vrai que quand on a fait ce mouvement il y a un an, la justice était en danger. Aujourd'hui, je dirais même qu'elle connaît un véritable infarctus, puisque finalement, la situation s'est aggravée aussi bien dans la région parisienne que dans les tribunaux de province, où c'est vrai que la justice du quotidien souffre à la fois du manque régulier de magistrats, aussi bien un manque permanent pour des magistrats qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés, ou pour des magistrats en arrêt maladie ou en congé maternité, et que par ailleurs, le besoin de justice étant devenu crucial, il est évident que les délais sont désormais anormalement longs et que c'est un peu inédit, le personnel de justice lui-même se met en grève, puisque vous avez dû entendre parler du fait que là, tout dernièrement, je crois, des juges d'application des peines se mettent en grève, ce qui est quand même une situation inédite.
Oui, c'est au tribunal d'Evry dans l'Essonne.
Exactement, et qui montre la violence du phénomène, parce que pour que des fonctionnaires se mettent en grève, et une grève qui en plus va coûter aux justiciables, puisque c'est une grève qui va entraîner en termes d'application des peines une impossibilité pour les détenus d'accéder à de la semi-liberté, d'accéder à de l'aménagement de peine, donc ça veut dire qu'évidemment c'est le justiciable qui va en pâtir, ça veut dire que le magistrat n'a pas d'autre choix que d'en passer par là, s'agissant de fonctionnaires, c'est rarissime.
Le plus gros problème de la justice, selon vous, c'est le manque de moyens.
Absolument. On ne peut pas continuer à considérer que notre budget peut être à moitié, si c'est triple moins, que le budget de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Danemark ou de la Suède. On ne peut pas considérer qu'on a plus d'un an pour accéder à un juge en France, alors qu'on a 19 jours au Danemark et 3-4 mois dans d'autres pays de l'Europe. Donc on peut tourner le problème dans tous les sens, tant qu'on n'y mettra pas un budget conséquent, on ne pourra pas résoudre la question de la justice en la rendant digne. C'est impossible.
Alors, le bâtonnier de Paris a lancé une campagne il y a quelques jours pour interpeller les candidats à la présidentielle. Je cite, pour sortir la justice de l'âge de pierre. Peu de candidats évoquent la justice dans leur programme. Vous le regrettez ?
Ah, complètement. Je le regrette d'autant plus que je pense que d'oublier le justiciable du quotidien, c'est évidemment gravissime parce que ça le rend en colère, qu'il renonce à la justice considérant que celle-ci n'est pas pour lui et que dans ces cas-là, il devient violent et cette violence se retourne soit dans les urnes, soit ailleurs. Donc évidemment, c'est une faute majeure. Et il va de soi qu'on ne peut pas d'un côté incanter toutes les autres démocraties, y compris la démocratie américaine, et de ne pas accepter évidemment un budget de la justice qui donne un véritable contre-pouvoir et qui permet aussi, n'oublions pas, une paix sociale. La justice, c'est un instrument de paix sociale. C'est la colonne vertébrale de la société. Donc oublier la justice est évidemment une faute majeure. Et ce qu'on attend des candidats, c'est qu'évidemment, ils parlent du budget, mais ils parlent aussi de l'accès à la justice pour les plus démunis, à savoir notamment l'aide juridictionnelle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire comment permettre à ce justiciable de rencontrer un juge, c'est-à-dire d'avoir droit à une défense. Ça veut dire de pouvoir accéder à un avocat qui serait éventuellement pris en charge par l'État. On sait qu'aujourd'hui, celui qui va pouvoir avoir droit à cet avocat, il faut qu'il gagne moins de 1000 euros. Ça veut dire qu'il y a toute une série de justiciables qui sont pourtant très peu argentés, qui ne vont pas pouvoir accéder à la justice. Ça veut dire aussi qu'il y a des tribunaux d'instance qui ont fermé. Ça veut donc dire qu'il y a des justiciables qui sont dans un certain nombre de territoires en France qui n'ont plus de poste ni de tribunaux d'instance, donc qui n'ont plus d'informations de la justice, donc qui n'ont plus accès à leurs droits.
Et vous...
Ça, c'est fondamental dans les programmes.
Vous parliez également de contre-pouvoir. La justice est-elle en danger dans son indépendance ? Je pense notamment à François Fillon qui remet en cause le parquet national financier qu'il juge illégitime dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme.
ben je trouve finalement que c'est très emblématique de ce que pensent les politiques depuis toujours. Au moins, il le dit tout haut. Mais soyons clairs, que le gouvernement ait été de droite ou de gauche, ils n'ont pas le souhait d'avoir une justice qui a un véritable pouvoir. D'ailleurs, depuis la Révolution, on parle d'autorité judiciaire. Les révolutionnaires se méfiaient déjà du pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, on le voit bien, le moyen d'éviter d'avoir une justice forte et indépendante, c'est de ne pas lui donner les moyens. Parce que quand vous êtes obligé de faire un choix entre plusieurs enquêtes possibles, qu'on vous amène un certain nombre d'infractions, mais que vous n'avez pas les moyens de toutes les poursuivre, ben qu'est-ce que vous allez faire? Il y en a toute une série que vous allez mettre de côté. Quand les délais sont extrêmement longs, ben ça, évidemment que ça intéresse le politique, parce que juger des affaires politiques 15, 20 ans après, ça veut dire quoi? Les hommes politiques ont changé, voire quelquefois ils ne sont plus accessibles à la justice. Donc évidemment, il n'y a pas de contre-pouvoir. Or, tout pouvoir entraîne un abus. Donc il est nécessaire qu'il y ait une justice forte.
Merci Laurence Roch d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes avocate et membre du syndicat des avocats de France. Le siège du Front National à Nanterre, une nouvelle fois passé au peigne fin par les enquêteurs. C'est la seconde perquisition dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistant au Parlement européen. Le parti dénonce une opération médiatique visant à perturber, je cite, le bon déroulement de la campagne électorale. La candidate FN, elle, qui est au Liban en ce moment, Marine Le Pen a rencontré pour la première fois un chef d'État pour tenter d'asseoir sa stature internationale. Le Premier ministre libanais Saad Hariri, qui l'a mise en garde contre tout amalgame entre l'islam et le terrorisme. Les pilotes d'Air France ont voté pour à 58% la création de Boost. Ils étaient consultés pour cette filiale à bas coût destinée à contrer la concurrence des compagnies low cost et celle du Golfe sur les vols long courrier et moyen courrier. Mais ce vote ne signifie pas que le projet est validé. Le syndicat des pilotes veut continuer les discussions avec la direction et se réunit mercredi pour analyser le vote des pilotes. Il ne rejette pas la filiale dans son principe, mais craint que cette filiale ne tire vers le bas les salariés. La famine se rajoute au combat violent au Sud-Soudan. Pour la première fois, le gouvernement déclare l'état de famine dans plusieurs zones du pays. Le conflit, qui dure depuis 4 ans, a tué des dizaines de milliers de personnes et a fait 3 millions de déplacés. À cela s'ajoute une hausse des prix de l'alimentation, la mauvaise production agricole et les prix ont quadruplé en un an. D'ici avril, selon la FAO, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation de l'ONU, cette situation de famine pourrait concerner 1 million de Sud-Soudanais. Dominique Burgeon de la FAO est interrogé par Nadine Epstein.
Déclarer une famine, c'est quelque chose que nous ne faisons pas à la légère. La dernière fois que nous avons déclaré une famine, c'était en 2011, en Somalie, et qui a coûté la vie à plus de 250 000 personnes. Aujourd'hui, ça se traduit effectivement dans certaines zones du Sud-Soudan par une déclaration de famine. Nous avons plus de 100 000 personnes qui sont dans cette situation de famine, c'est-à-dire des personnes qui sont à risque de mourir et certaines qui meurent déjà de faim. Plus de 5 millions de personnes sur l'ensemble du territoire national sont dans une insécurité alimentaire sévère. Ça veut dire que non seulement ces populations ne sont plus à même de subvenir à leurs besoins alimentaires de base, c'est-à-dire qu'elles coupent sur le nombre et la qualité des repas, mais aussi qu'elles sont en train de vendre tous leurs biens, leurs outils, leurs semences, leurs animaux, parfois même leurs terres, pour pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, et que même en faisant ça, elles n'y arrivent plus.
C'est-à-dire que les agences de l'ONU puissent distribuer de la nourriture ?
Alors effectivement, c'est effectivement une situation de conflit caractérisée par un problème d'accès aux populations. Ce sont des zones marécageuses et donc difficilement accessibles. C'est une combinaison d'une part, évidemment, d'une aide alimentaire pour les permettre de survivre aujourd'hui, mais aussi une aide agricole partout où c'est possible pour leur permettre de vivre dans les mois qui viennent et à plus long terme.
Donald Trump a nommé son nouveau conseiller à la sécurité nationale pour remplacer Michael Flynn. Il s'agit du général McMaster. Il a fait la guerre du Golfe, puis il a combattu en Irak après la chute de Saddam Hussein, mais aussi en Afghanistan. Sa nomination a surpris car McMaster, même s'il est un stratège militaire, est aussi connu pour contester l'autorité. Il avait notamment écrit un livre en 1997 où il critique les dirigeants américains au moment de la guerre du Vietnam. Les négociations entre la Grèce et ses créanciers vont reprendre pour le troisième plan d'aide de 86 milliards d'euros. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont décidé d'envoyer une nouvelle mission d'évaluation d'experts à Athènes. En échange, la Grèce accepte de faire des concessions en prélégiférant dès maintenant des mesures d'économie comme une nouvelle réduction des retraites. Le temps pour demain, de la grisaille et de la pluie sur quasiment tout le pays. Les températures seront comprises entre 4 et 9 degrés sur la moitié nord, 14 à 17 degrés dans le sud.